Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à notre cinquième émission du cycle Les Dor Vador, la musique hébraïque des générations en générations, qui a pour vocation de vous faire découvrir ou redécouvrir divers aspects de la musique hébraïque de tous les temps. Après les programmes de la semaine dernière où nous avons abordé des œuvres de Salomon Rossi, avec nos invités Jean Moissonnier et Léo Sabot, qui est notre fidèle collaborateur depuis le premier programme. Bonjour Léo.
Bonjour.
Bonjour Jean.
Bonjour Hector.
Nous allons donc aborder aujourd'hui toute une série, une longue série des chants polyphoniques de Salomon Rossi, pour vous montrer, pour vous illustrer les différentes manières dont les interprètes du XXe siècle, les interprètes actuels, se sont appropriés cette musique et l'ont lu, l'ont compris à leur manière à partir des angles, des points de vue un tout petit peu différents. Je vous propose de commencer avec un chant à 5 voix. Et la dernière fois, on avait écouté des chants à 3 voix, à 4 voix. Aujourd'hui, on commence avec un chant à 5 voix, le Kaddish, le fameux Kaddish, qui commence avec les mots « It Gadal, Veit Kada, Shemer Rabo ». Les gens « Shemer Rabba », pardon, parce que les Italiens prononcent avec la prononciation « Sepharad ». Ils ne sont pas ashkénazes, sauf ceux qui parlent yiddish, bien entendu. Et donc, les Kaddish abordés par Salomon Rossi se présentent sur la partition à 5 voix, c'est-à-dire une voix de soprano, une voix de deuxième soprano, une voix d'alto, puis une voix de ténor, une voix de basse, et dans l'ordre de l'aigu, du plus aigu au plus grave. Et il y avait une pratique à l'époque qui consistait à ne pas chanter tout le temps toutes les voix. N'est-ce pas, Jean?
Hein, oui,
toi qui as l'habitude de chanter un peu cette musique. Et les interprètes avaient la liberté, justement, puisqu'on est en polyphonie, de prendre l'une voix ou l'autre, de l'isoler du contexte, soit de les faire accompagner par des instruments, soit de laisser une voix chanter toute seule. Par exemple, le plus normal était de prendre la voix de soprano, parfois la voix du ténor aussi, les voix aiguës, qui chantaient donc toute seule. Et puis s'il y avait plusieurs strophes avec la même mélodie, comme c'est le cas du Kaddish, hein, plusieurs strophes avec les mêmes mélodies, et on fait alterner comme ça, on met une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix, à la liberté, au choix des interprètes. En premier lieu, je voudrais vous présenter la version de l'ensemble Texto. L'ensemble Texto, qui est un ensemble parisien, qui a fait des belles enregistrements pour la fondation du judaïsme français, dans un cycle très intéressant, une collection des musiques juives dirigée par Hervé Roten, qui nous font écouter le Kaddish de Salomon Rossi avec la version suivante.
Oh,
Eh bien, nous avons écouté juste les débuts, juste la première partie, hein, la première section du Kaddish. Et comme vous avez pu l'entendre, la première mélodie est chantée par la soprano toute seule. Ensuite, il y a une reprise qui est faite d'abord à 3 voix, puis à 5 voix. Et au lieu de continuer avec les strophes suivantes, l'interprète choisit de répéter, de faire une reprise textuelle. Et Jean, qu'est-ce que tu penses de cette interprétation? Toi qui connais, tu as chanté plusieurs fois ces morceaux, n'est-ce pas? Quelle est ta première impression? Tu as les droits de dire ce que tu penses. Hein.
Alors, je vais commencer par le côté positif. On a affaire à de très jolies voix. Qui, manifestement, c'est un ensemble qui a une expérience, qui est très expérimenté, qui sonne bien ensemble. Maintenant, je trouve que cette interprétation est un peu statique, un peu éloignée de... Moi, j'entends plus cette mélodie, comme cette musique, comme exprimant un mouvement de danse que j'entends très peu là.
Voilà. Moi, je pense qu'il doit avoir, peut-être que je me trompe, mais il y a une petite tradition romantique, hein, qui vient du 19e siècle, qui, grâce à Nombourg, qui a redécouvert cette musique de Salomone Rossi et qui l'a interprétée à sa manière romantique de la fin du 19e, il a adopté pour cette prière bien connue un tempo ouais, plutôt lent. En plus, le Kaddish a réputation d'être une prière funèbre, ce qui n'est pas du tout le cas. On s'attardera une autre fois sur les particularités du Kaddish, mais effectivement, la danse manque ici. C'est une sorte de mélodie langoureuse qu'on entend, et puis ça manque un tout petit peu de direction. L'esprit de Salomone Rossi, à mon sens, n'est pas trouvé non plus. Qu'est-ce que tu penses, Léo, toi qui as déjà entendu cette musique, sans entrer trop dans les détails, comment tu l'as senti?
Oui, bah pareil, hein, ça me semblait un peu lent par rapport à ce que j'avais entendu les autres fois. Et oui, enfin bon, après, il peut y avoir différentes interprétations. Par exemple, dans le contexte où on utilise le plus souvent le Kaddish, bon, c'est lent, c'est un peu solennel. Mais sinon, oui, c'est plus lent que les autres fois où j'avais entendu ce chant.
D'accord. Moi, je vous avoue que je fais un peu exprès de choisir cette version particulière parce que c'est une façon comme une autre d'aborder les choses. On va expliquer après pourquoi. Mais on va écouter tout de suite, avant de continuer la discussion, une deuxième version de ce même Kaddish par un autre ensemble, l'ensemble d'Edalus, qui présente une autre approche.
Oh,
Et puis voilà une autre approche, pas très très éloignée, mais quand même assez différente. Qu'est-ce que vous avez entendu? Comment vous pouvez illustrer votre perception de cette deuxième version?
Eh bien, peut-être pour corriger ce que je disais précédemment, cette version n'est finalement pas beaucoup plus rapide que la précédente. En revanche, ce que l'on saisit très bien, c'est à la fois la direction des phrases, c'est-à-dire que les phrases sont dans toute leur longueur, bien étirées. Ça, c'est la technique des chanteurs. Les mots sont bien dessinés. Je parlais de prosodie l'autre fois. Le texte est vraiment bien mis en avant. Et puis surtout, on sent ce mouvement de danse, ce mouvement ternaire qu'on sentait moins dans la précédente version. Là, on est vraiment dans une danse très lente. J'ai envie de dire une danse contemplative. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est vraiment quelque chose de très expressif et oui, très proche du corps de la danse. Le corps est appelé. C'est comme si le corps était appelé à méditer aussi.
Effectivement. Et toi, Léo, qui connais un tout petit peu d'autres versions de ce Kaddish, comment tu l'as senti? Quelle est ton impression?
C'est un peu pareil. Enfin, je ne sais pas si c'est dans la polyphonie, si c'est les voix qui sont différentes par rapport à la version d'avant. Mais là, oui, je sens que c'est un peu plus entraînant qu'avant, qu'il y a plus cette sensation de danse, même si ce n'est pas plus rapide, enfin, beaucoup plus rapide qu'avant. Et voilà.
Effectivement. Et vous avez pu, chers auditeurs, constater que le premier chant, la première version, commençait avec une voix féminine, tandis que celle-là commence avec une voix masculine. Mm. On entend d'abord le ténor, puis il y a une basse, un baryton, hein, qui se joignent à l'ensemble. Et puis seulement après, lors d'une deuxième strophe, nous avons les voix des femmes. Et puis les voix se mélangent jusqu'aux cinq qui sont vraiment écrites, pour donner un élan et quelque chose de très intéressant. Évidemment, je ne vais pas vous faire écouter une troisième version parce qu'on a envie d'écouter d'autres choses, mais et pour les gens qui me connaissent un peu, et j'ai eu l'occasion de diriger ces morceaux, et puis mon choix personnel, c'est « Hit Kadal, Beit Kadash, Jemeraba ». Et puis ça y va, et on fonce, et on danse, et on s'amuse, parce que le Kaddish, ce n'est pas la mort, hein, comme on dit. Voilà, donc je voulais vous partager ces quelques impressions. Avant de passer au morceau suivant, que je vais vous proposer maintenant, on va rester un peu dans les choses méditatives, dans les choses intérieures. Al-Naharot Babel, hein, sur les rives de Babylone, c'est le fameux psaume 137 qui raconte l'exil des Hébreux en Babylone. Et qu'il pleure, hein, devant le fleuve, il voit couler l'eau et il se lamente d'avoir dû quitter Jérusalem et de se retrouver esclave, hein, chez Nabucco, comme l'opéra de Verdi le raconte. On va écouter une première version qui est due à un ensemble baroque, spécialisé dans la musique baroque, le New York Baroque Ensemble. Voilà donc pour les débuts, la première section de ces Al-Naharot Babel, interprétée par Eric Milnes à la tête de New York Baroque. Il s'agit de quelque chose de pas gay, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses, Léo?
Oui, enfin, ça n'a pas l'air très heureux, hein, mais ça se ressent. Oui, voilà.
Et Jean, tu as déjà chanté ou tu as déjà écouté, si, tu as chanté ces morceaux. Quelle est ta vision de la chose?
On va peut-être trouver que je suis un obsédé de la vitesse, mais je trouve que là, le tempo là, est là aussi un peu lent. Je pense qu'il y a, peut-être des restes de solfège. C'est vrai que cette musique est souvent notée en blanche, et que si on apprend que la blanche c'est lent, ben on finit par chanter ces morceaux de manière un peu trop lente, et on en perd la direction des phrases et le sens finalement. Je trouve que beaucoup de reproches à formuler quant à cette interprétation que je trouve très belle, sauf le fait que le sens du récit passe un peu au second plan.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le récit, c'est-à-dire moi, ce qui me manque, c'est l'histoire.
C'est ça, c'est l'histoire.
La musique ne raconte pas l'histoire. Anna Arod Babel, Shamia Shavnu, Gambachin Onete. Déjà, le fait de chanter Naharot Babel, ça veut dire les rives de Babylone. La musique, quand on la regarde sur la partition, il y a des notes qui bougent,
ouais,
qui bougent
les
comme les eaux.
Ce sont les flots. Ouais.
Les flots qui ondulent. Et puis, Sham Yashav, nous, ça veut dire on était assis. Gambachinu, et nous avons pleuré. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on a besoin, on a envie d'écouter un récit, quelque chose qui raconte. On va écouter une autre version pour voir si on retrouve un tout petit peu cela. Et la version d'un ensemble balois, hein, des anciens étudiants de l'école, la Schola Cantorum, l'école fameuse, célèbre, des musiques anciennes de Bâle, et qui s'appelle, un ensemble s'appelle I Profeti della Quinta. Voilà une toute autre version, hein. On entend même la hauteur de son qui est différente, c'est-à-dire un la, ce n'est pas toujours un la. Et dans cette musique, quand on change de ville, quand on change de pays, la hauteur de son n'est pas la même. Et on peut dire un mot sur cela à nos auditeurs?
Oui, je pense que c'est l'un des apports de la redécouverte de la musique ancienne, d'avoir établi ce fait que le diapason pouvait varier suivant les régions, effectivement. Et on le sait grâce aux instruments qui, eux, ont été retrouvés. Les chanteurs, on n'a pas de témoignage direct de leur diapason, mais on a retrouvé des instruments comme des orgues ou des instruments à vent sur lesquels on a pu vérifier que les diapasons en usage en Italie, notamment, étaient plus élevés que le diapason actuel qui est officiellement à 440, la 440. On était plutôt sur du la 460, donc un demi-ton au-dessus à l'époque en Italie. Et c'est vrai que ce demi-ton fait une différence de couleur, une différence de couleur assez importante.
Et là, on l'a entendu de façon très marquée, n'est-ce pas, Léo?
Ouais.
La couleur change complètement.
Et puis là, sur cette version, très clairement, j'avoue que non seulement je retrouve un peu mes... mes préoccupations, mais c'est restitué d'une manière exemplaire. On entend là sur les valeurs longues qui sont extrêmement vivantes. On entend les chanteurs articuler le texte avec des intentions et des affects, même du timbre qui varie suivant le sens du texte. Il y a toute une éloquence, toute une rhétorique qui se met en place là, de la part des interprètes et qui change complètement la perception de l'œuvre. Et même si on ne comprend pas l'hébreu, ce qui est hélas mon cas, j'ai besoin de passer par la traduction, même si on ne comprend pas l'hébreu, je pense qu'on est en mesure d'entendre ces différents aspects du texte, ces différentes intentions, ces différents affects. Et ça rend la musique extrêmement vivante, extrêmement parlante, comme un récit. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut pour cette musique.
Ben, imaginez-vous que j'ai choisi cet extrait de manière très préméditée. Je connais très bien les interprètes qui sont pas des amis, mais c'est des gens de Bâle que je connais. C'est des Israéliens, ils sont tous Israéliens.
D'accord.
Et qui ont fait leurs études à Bâle, et ils savent ce qu'ils chantent.
Ouais,
c'est vécu, c'est extraordinaire, et c'est franchement l'une des plus belles versions que j'ai trouvées de ces psaumes. Comme les temps passent beaucoup trop vite quand on écoute de la belle musique, je le disais déjà la dernière fois, on va sauter, contrairement à ce qu'on a dit, on va pas passer par les morceaux à 5, 6 voix, 7 voix, on va aller directement écouter les derniers morceaux que j'ai prévus pour aujourd'hui, l'hymne Ein Keloheinu, qui est un hymne à 8 voix, un hymne qui est écrit, il se trouve dans la liturgie juive à la fin des offices du matin, et il a une origine espagnole, et ici il est chanté naturellement dans le style italien des Salomone Rossi, à 2 chœurs, c'est-à-dire 2 chœurs à 4 voix qui se font face à face. Léo, c'est l'invention de quoi? De quel procédé du XXe siècle?
Bah, c'est le... du XXe siècle? Ah oui, c'est comme s'ils dialoguaient en musique et ils sont sur des balcons.
C'est la stéréo.
Oui, ah bah oui.
Voilà, c'est la stéréophonie
de
la musique électronique du XXe siècle, mais qu'à l'époque déjà, notamment dans les églises italiennes, il y avait des chœurs qui se plaçaient dans les balcons, face à face, et des chœurs qui dialoguaient, les chœurs 1 et les chœurs 2. Et c'est précisément ce qui va faire Salomone Rossi dans la plupart, ou je dirais presque dans tous ses morceaux à 8 voix, qu'on va écouter tout de suite, Ein Keloheinu, par l'ensemble vocal Hebraïka. Et si vous prêtez bien l'oreille, vous écouterez la voix des basses, chantée par Jean lui-même. Comme on est un tout petit peu à court de temps, j'aurais bien aimé vous faire écouter jusqu'à la fin, mais vous avez la possibilité de vous procurer les disques, je ne vous dirai pas plus, parce qu'il est disponible à Strasbourg. Et voilà ce qui est intéressant, vous avez écouté Jean pour la voix des basses du premier chœur, vous avez écouté Hector Sabot, moi-même, pour les basses, la voix des basses du deuxième chœur, le chœur qui dialogue dans les différentes strophes qui alternent, et enfin, les deux chœurs qui se retrouvent à chanter ensemble à 8 voix, c'est-à-dire chacune de 8 voix a sa propre mélodie, et c'est le summum de la polyphonie. Qu'est-ce que tu penses, Léo?
Oui, enfin, c'est un chant qui a l'air très complexe à mettre en place. Au niveau de la polyphonie, ça a l'air assez compliqué. Les mélodies au niveau du rythme, sauf au début, elles se correspondent presque pas.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, voilà.
Eh bien voilà, et nous arrivons avec ces petits commentaires à la fin de notre émission. Et moi je pensais faire deux émissions, mais je me rends compte que la richesse des races Salomone-Rossi est tellement énorme que je serai obligé de préparer une prochaine émission pour conclure. Il n'y a pas 203, on dit. Et puis la prochaine émission sera consacrée encore à quelques autres morceaux des Salomone-Rossi qui vont nous donner un panorama assez large de ces fabuleux musiciens qui mérite d'être mieux connu. Merci de votre écoute. Merci Jean. Merci Léo. Merci aussi à notre technicien Elias qui nous suit toujours avec beaucoup d'attention. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine.